Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon. Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous aujourd'hui. Comment s'initier à la langue américaine lorsqu'on est immigrant aux États-Unis? Vaincre les obstacles à la communication lorsqu'on est immigrant, c'est d'abord et avant tout maîtriser la langue, l'anglais, ici aux États-Unis. Pour en parler, nous recevons Madame Khadidia Doumbia, enseignante examinatrice pour le baccalauréat international. Elle est rattachée au bureau des affaires africaines dans le gouvernement du district de Columbia.
Quand on arrive dans un pays étranger, on est toujours un peu intimidé parce que c'est une langue étrangère, surtout lorsqu'on ne connaît pas la langue. De nombreux francophones qui ont appris un peu d'anglais au collège ou au lycée, quand ils arrivent ici, la prononciation est différente. On a du mal à comprendre ce qui est dit. Et il y a le stress aussi d'arriver et de vivre dans un pays étranger où il faut s'adapter à tous les niveaux. Donc oui, effectivement. Et en plus, je devrais ajouter que les citoyens américains ne font pas beaucoup d'efforts aussi pour comprendre l'accent et l'anglais de l'étranger. Donc, il y a tous cela qui vit à déstabiliser un tout petit peu quand on arrive.
Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des cas où des gens qui, en dépit de leur apprentissage de l'anglais dans leur pays d'origine, sont souvent désorientés ici? Est-ce que le blocage est interne ou bien c'est la situation d'ici qui le fait?
Ça dépend. Moi, je prends mon exemple. Quand j'étais étudiante ici, une fois, je suis allée au McDo et je voulais un hamburger. Et en français, nous ne prononçons pas le H. Donc, j'ai dit hamburger. Et la femme ne comprenait pas ou elle ne faisait pas d'effort jusqu'à ce que la ligne s'allonge et quelqu'un dans la ligne dise « Oh, she wants a hamburger ». Donc, il y a la prononciation de la langue qui pose problème. Et aussi, les francophones ont tendance à... On a un petit orgueil mal passé qui fait que beaucoup viennent avec leur anglais de base et ne cherchent pas à améliorer leur anglais. Donc, l'intégration peut devenir pénible à un moment donné.
Alors, y a-t-il un problème particulier pour nous, les locuteurs français, face à l'anglais?
Oui, parce que l'anglais qui a été appris à l'école doit être amélioré ici. Il faut ne pas avoir honte de prendre des cours, des supports. Et il ne faut pas aussi oublier que beaucoup de membres de notre communauté arrivent ici, ne parlant même pas le français convenablement, déjà au départ. Donc, il y a ce premier problème. Et le deuxième problème, il y a beaucoup de membres de notre communauté qui croient qu'en apprenant comme ça avec les gens autour de nous, ça va être plus facile. Ça aide, mais il faut quand même prendre des cours. Il y a beaucoup de cours gratuits, surtout à Washington DC, des cours de support en anglais où les gens peuvent participer, quoi. Donc, il faut vraiment avoir l'humilité de savoir, je viens ici, j'ai une nouvelle vie, il faut que je m'adapte, il faut que je comprenne comment le système fonctionne, comment la vie fonctionne. Il faut que je prenne des cours pour améliorer, parce que ça aussi, c'est important pour pouvoir trouver un travail convenable, vous comprenez? Si vous ne parlez pas bien anglais, il y a certaines opportunités que vous n'aurez pas. Donc, il faut en être conscient également.
Alors, nous venons d'Afrique, en majorité pour les immigrants et pour nos auditeurs. Les langues africaines sont-elles un avantage ou un boulet au pied?
Non, ce n'est pas un boulet au pied. Maintenant, de plus en plus dans le système éducatif et dans les réflexions et dans les recherches, on prend de plus en plus en compte les langues vernaculaires que les gens connaissent parce que si vous voyez même nos systèmes éducatifs en Afrique, les enfants arrivent toujours en parlant au moins une ou deux langues vernaculaires avant d'apprendre le français. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent dans le système éducatif national, on ne prend pas ces langues-là en compte. Il faut apprendre le français tout de suite. Et souvent, ces enfants ne parlent pas le français à la maison. Et si vous observez bien dans le système américain, maintenant, il y a des supports dans les classes primaires où il y a une aide comprend la langue de certains enfants. C'est plus facile d'apprendre dans sa langue d'origine avant de commencer dans une langue étrangère. Et j'étais à un séminaire il y a 3 semaines, sponsorisé par USAID, où par exemple, je prends l'exemple du Pakistan, les enfants, les 2 ou 3 premières années à l'école, sont enseignés dans leur langue maternelle. Et à partir du moment où vous comprenez et vous maîtrisez votre langue maternelle, c'est plus facile d'apprendre une deuxième langue parce que le cerveau déjà est prêt. Donc l'anglais, il apprend en une année ou deux. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudrait à un moment donné que nous revoyons dans notre pays, parce que les enfants qui ne parlent pas français à la maison sont souvent désavantagés parce qu'il faut qu'ils ajustent rapidement au système. Donc les langues vernaculaires sont sur une liste ici dans l'État de Washington, le district de Washington, de Colombie, pardon, et qui sont respectées. Et il y a des traducteurs volontaires qui sont là, il faut que les gens le sachent. Que ce soit le baolé ou le wolof, il y a des traducteurs. Donc, il faut que la communauté sache qu'il y a des options quand on ne parle pas l'anglais ou le français ou les langues standards.
Alors, Madame Doumbia, cela révèle qu'il y a un problème manifestement. Et nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission dans un instant. Comment surmonter les blocages liés à l'environnement linguistique?
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Madame Doumbia, les Africains, quand ils débarquent ici, faut-il nécessairement aller à l'école pour apprendre l'anglais?
Cela dépend du niveau, mais il est toujours bon de prendre quelques cours pour rafraîchir s'il y a longtemps. Mais lorsqu'on arrive de l'étranger et qu'on a quitté les bancs depuis assez longtemps et qu'on n'a pas pratiqué la langue, c'est toujours bon de retourner un tout petit peu à l'école. Il y en a qui ont besoin de cours d'un mois seulement, d'autres d'un an. Ça dépend du niveau et de la facilité. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça devient impératif pour la qualité d'opportunités qui peuvent se présenter selon le niveau d'anglais que la personne a. Donc, il faut aussi tenir cela en compte. C'est vrai que, comme on dit dans notre langage, les gens viennent pour se chercher, mais il faut savoir bien se chercher. C'est le problème que nous avons dans la communauté francophone. L'année dernière, le gouvernement de Guy avait organisé un séminaire pour comprendre les besoins en langue des différentes communautés. Toutes les communautés étaient représentées et comme d'habitude, la communauté francophone, on se plaint tout le temps, mais sur la table, nous étions les traducteurs, interprètes et modérateurs. Il y avait une ou deux personnes de la communauté qui étaient présentes. Mais si on rencontre des francophones, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas d'aide, il n'y a rien quand ils vont dans les différents départements du gouvernement ou dans les hôpitaux. Mais ils ne font pas entendre leur voix. Ceci étant dit, dans le District of Columbia, le français est une des langues principales. Tous les documents, dans tous les départements publics, dans les écoles publiques, même dans les charter schools, les francophones ont droit à un interprète ou à une traduction. Je préconiserais qu'ils préviennent à l'avance de leurs besoins pour s'assurer que le service soit disponible, mais c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit et il faut qu'ils le sachent.
Alors, prends l'exemple de quelqu'un qui, comme vous l'avez dit, est venu se chercher, qui n'a pas forcément le baccalauréat et qui ne peut donc pas s'adresser aux universités. Et comment, dans le système américain, peut-il arriver à aller au-delà de son handicap linguistique?
Concernant Washington DC, il y a l'anglais, l'espagnol, le mandarin, qui est donc le chinois, le vietnamien, le français, qui sont des langues qui doivent être traduites obligatoirement. Donc, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ne s'expriment pas bien en anglais, par exemple, quand elles vont dans un immeuble public, appartement au gouvernement du district, elles ont droit à un traducteur ou à un interprète. Maintenant, il y a des petites cartes qu'elles peuvent télécharger sur le site du département des droits humains du gouvernement, où il y a un côté c'est écrit en anglais, l'autre côté c'est écrit en français ou en amharique, dépendant de la langue de la personne, que la personne peut présenter pour dire « je ne parle pas l'anglais ». Et il y a obligation de leur trouver tout de suite quelqu'un pour traduire pour elles. Et malheureusement, les gens ne le savent pas. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit qui a été voté. Donc, que ce soit la maman qui va à l'école publique de son enfant et qui ne parle pas bien anglais, elle a le droit d'avoir un traducteur. C'est un droit.
Ok, Madame Doumbia, est-ce que le facteur âge dans l'apprentissage de la langue est-il primordial?
Oui et non. cela dépend. C'est-à-dire que quelqu'un...
Nous les vieux, là, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais?
Bien sûr, c'est-à-dire que parfois, bon, on a beaucoup plus de choses dans la tête que les enfants, donc automatiquement, c'est un peu plus lent, mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui apprennent plus rapidement que d'autres. C'est-à-dire que si vous comprenez une ou deux langues vernaculaires, vous parlez français, vous avez fait un peu d'anglais ou d'espagnol au lycée, automatiquement, ça revient le cerveau à la mémoire, donc vous avez les disponibilités pour apprendre une autre langue. C'est beaucoup plus facile. On dit en général que les enfants, c'est plus facile, mais non, ce n'est pas forcément plus facile. L'adulte peut avoir des prédispositions. Maintenant, quand vous avez un adulte qui ne comprend que sa langue et qui vient pour apprendre une deuxième langue maintenant et que le cerveau n'a pas fait cet apprentissage, bon, ça prend un peu plus de temps. Maintenant, il y a des gens qui ont des facilités pour apprendre les langues. Il y a tout ça qui entre en jeu. Il y a l'environnement qui entre en jeu parce que vous prenez des cours. Si vous vous entourez des gens qui parlent la langue, bon, automatiquement, vous faites votre apprentissage. Mais si vous prenez vos cours et vous rentrez chez vous et vous parlez que votre langue, vous ne parlez pas l'anglais, par exemple, c'est sûr que c'est un peu plus lent. Donc, ça dépend des cas.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Vous écoutez La Voix de l'Amérique. L'émission, c'est L'Amérique et vous. Et nous recevons aujourd'hui Mme Khadidia Doumbia. Elle est spécialiste de langue. Elle travaille avec le Bureau des Affaires africaines à Washington. Mme Khadidia, retour à vous. Quelles sont les petites techniques qu'il faut utiliser pour améliorer la capacité de rétention et vaincre l'engourdissement?
D'abord, il faut passer le cap de la timidité parce que plus on est âgé, plus on a un blocage pour parler parce qu'on ne veut pas faire de fautes. Mais il faut l'apprentissage, il faut faire des fautes et accepter que la personne en face vous corrige pour vous améliorer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui prennent des cours, il faut s'entourer des gens du pays pour pratiquer. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous pouvez très bien lire et puis comprendre, mais la facilité d'élocution ne viendra jamais. Donc, il faut vraiment se jeter et puis faire de son mieux. Maintenant, pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'un support, il faut vraiment prendre des cours. Et comme je le disais tantôt, il y a des cours qui sont gratuits. Il n'y a pas de honte à retourner à l'école et prendre son courage également pour retourner. Parce que ce n'est pas évident lorsqu'on est chargé de famille, on travaille, il y a les enfants. Et puis il y a l'ajustement dans le pays et tous les autres soucis. Retourner à l'école, parfois, c'est pénible. Mais le faire une fois par semaine, même le samedi, c'est bon parce qu'à long terme, la personne verra les avantages que cela pourra lui apporter. Et c'est très frustrant d'être dans un environnement où les gens parlent, on ne comprend pas bien ce qu'ils disent, où on n'arrive pas à lire. Donc, c'est sûr que pour beaucoup d'entre nous, on ne parlera jamais la langue comme un vrai Américain ou un enfant qui est né ici, mais pouvoir s'exprimer de façon aisée dans son environnement est très important. Et puis n'oubliez pas, les Américains aiment beaucoup les accents, malgré ce qu'on dit. Ils adorent et ils savent très bien que la personne qui a un accent parle une autre langue, alors que beaucoup d'entre eux ne parlent que l'anglais, donc ils ont le respect aussi.
Alors, Madame Khadidia Doumbia, il y a pour les Africains la tentation de se regrouper en communauté. Les gens préfèrent aller dans une église où on parle français, les gens préfèrent aller dans un restaurant où on parle français. Est-ce que c'est la bonne attitude?
C'est-à-dire que si c'est de temps en temps, je trouve que c'est bon parce qu'on a besoin de temps en temps de se ressourcer, de se retrouver dans sa communauté. Mais si c'est systématique, cela veut dire que quelque part, on se voile un peu la face parce que on cherche, comme on dit en anglais, notre comfort zone. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire l'effort qu'il faut pour s'intégrer. Alors que lorsqu'on arrive, on prend la décision de venir vivre à l'étranger, on a automatiquement pris la décision aussi de s'intégrer dans une nouvelle société, sans pour cela perdre son identité, bien entendu. Donc, aller systématiquement où c'est facile ne nous permet pas de nous intégrer dans la société. Donc, il y a un équilibre à trouver. Ne pas lâcher sa communauté parce que ce n'est pas le but, mais pour s'intégrer aussi dans la société dans laquelle on vit maintenant.
Comment s'ajuster donc dans une communauté bilingue?
Non, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on travaille, on travaille des Américains avec des francophones et tout ça, il faut s'intéresser aussi à la culture du pays. Si vous vous intéressez à la culture du pays, automatiquement, vous ferez aussi des choses qui ont attrait à la société dans laquelle vous vivez à ce moment-là. Et ça ne vous empêche pas aussi de fréquenter votre communauté. Et votre communauté également peut faire des échanges avec d'autres communautés de cette nouvelle société. Vous comprenez, si vous faites des échanges seulement entre francophones, ça ne vous mène nulle part. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les enfants de la communauté francophone, ils sont nés aux États-Unis, sont des Américains d'origine africaine. Ils ne sont plus des Africains. Et j'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à intégrer ça. Je dis non. Lorsqu'on décide de vivre à l'étranger, il faut comprendre l'impact que cela peut avoir sur nos vies même personnelles. Donc, nos enfants, on le veut, on ne veut pas, ont des parents africains, mais eux, ce sont des Américains d'origine africaine. Donc, il faut trouver maintenant un juste milieu pour ces enfants-là aussi, pour qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent, mais qu'on ne les isole pas de leur environnement réel.
Alors, y a-t-il un temps d'exposition nécessaire à la langue pour pouvoir la maîtriser?
Ça dépend des personnes. Si vous travaillez avec des collègues américains, c'est sûr que vous allez parler l'anglais très rapidement. Vous comprenez que vous prenez vos cours, vous parlez tous les jours l'anglais. Mais quelqu'un qui reste dans sa communauté, elle peut rester 10 ans ici et ne pas pouvoir parler convenablement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut vouloir aussi s'intégrer pour pouvoir, parce que la langue aussi est un des facteurs majeurs de l'intégration. Donc, ne pas bien parler la langue n'est pas ce qui est grave, mais faire l'effort de vouloir s'exprimer, ceci est important. Et dans une région comme Washington DC, d'autant plus facile parce qu'il y a tellement d'étrangers que personne ne va rire parce que vous faites une faute en anglais, vous comprenez? Donc, il faut s'efforcer de s'exprimer. Que l'anglais soit parfait ou pas, ce n'est pas important. Il faut montrer la volonté de faire partie de la société. C'est ce point-là qui est très important.
Vous avez fait remarquer que personne ne se moquera de nos accents africains, mais au finish, il faut quand même l'améliorer, l'accent, parce qu'à répéter les mêmes choses chaque fois à la banque, à la poste, ça finit par devenir fatigant, j'allais dire. Alors, comment améliorer cet accent qui nous colle à la peau?
Je pense que l'accent ne devrait pas être un problème. Et de plus en plus, on conseille même aux gens de ne pas avoir honte de leur accent. Ce qu'il faut faire, c'est surtout améliorer la prononciation. C'est ça le facteur, améliorer la prononciation. L'accent, moi, mon accent français, je ne vais jamais le perdre. Moi, mon fils passe avec un accent, je ne sais pas, américain ou anglais, mais moi, mon accent français, quand je parle anglais, il restera, quels que soient les efforts que je vais faire. Je peux améliorer pour me faire mieux comprendre, mais je pense, en tant que professeur de français, que c'est surtout la prononciation des mots qui est importante.
Est-ce que nous, les apprenants, on a le choix de l'enseignement qu'on veut recevoir, de la méthodologie qu'on veut recevoir?
Oui, tout à fait. Et de toutes les manières, au jour d'aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, il est clair que nous, les enseignants, nous savons que chaque individu est unique et apprend d'une manière spécifique. La raison pour laquelle on essaie de diversifier, on appelle ça la différenciation, stratégie. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus visuels, ou qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus print, c'est-à-dire lire, il y en a qui sont plus orales. Donc, dans l'enseignement en général, normalement, si le professeur fait son travail convenablement, dans les stratégies d'enseignement d'une leçon, il doit pouvoir y avoir différentes options de compréhension pour permettre à chaque individu dans la classe de pouvoir comprendre la leçon. Et donc, normalement, ça devrait aller, parce que maintenant, il est clair que chaque apprenant a sa façon d'apprendre. La raison pour laquelle en Afrique, on a, ou même en Europe, beaucoup d'enfants qui ont quitté l'école parce qu'on dit « Oh, il ne comprend rien, on a beau, il ne comprend rien ». Non, il comprenait, mais la manière d'enseigner, qui ne veut pas dire que le professeur était mauvais, le professeur faisait comme il avait appris. Et la manière d'enseigner n'allait pas forcément avec cet apprenant-là.
Voilà, nous sommes au terme de notre entretien. Nous recevions dans le cadre de l'Amérique et vous, Mme Khadidia Doumbia. Elle est spécialiste de langue et elle travaille au Bureau des Affaires africaines au district de Columbia. Merci Mme Doumbia, merci d'avoir été avec nous.
Je vous remercie.
Quelque chose en anglais pour terminer.
OK, thank you for inviting me today, and I hope that the francophone community will benefit and take advantage of all the opportunities offered by the government of the District of Columbia.
L'Amérique et vous, ce sera tout pour cette édition. Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir à tous.